Chapitre 11. Où l'on s'aperçoit que la théorie du dédoublement de la personnalité est une vérité scientifique que l'on a tort de dédaigner. Après avoir bourré et allumé sa bouffarde, Chantecoq s'empara du téléphone intérieur de l'hôtel et prévint le concierge de service que, dès que le professeur Courtil se présenterait, il n'aurait qu'à le faire monter dans sa chambre. Puis, ainsi qu'il se l'était promis, il bourra et alluma sa pipe. Après avoir réfléchi pendant quelques instants, tout en renvoyant vers le plafond les larges bouches bleuâtres qu'il tirait de son calumet, Chantecoq réendossa son veston, se confia de sa perruque, réajusta la fausse barbe à son menton et s'en fut prendre, dans la seconde boîte métallique qu'il avait apportée, un pistolet de forme bizarre qu'il dissimula dans l'une des poches de son veston. Cela fait, après s'être commodément installé dans un fauteuil, il attendit patiemment les événements, ou plutôt le professeur Courtil, qui d'ailleurs n'allait pas tarder à se faire annoncer. À peine une demi-heure après la fin du véritable duel entre le grand détective français et le pitoyable détective américain, on frappait à la porte. « Entrez !» fit aussitôt le limier. Un garçon apparut annonçant « Monsieur le professeur Courtil !» Puis il s'effaça afin de permettre au savant de pénétrer dans la pièce. Aussitôt il se retira, laissant seul face à face les deux protagonistes du drame que nous sommes en train de retracer. En apercevant seulement celui qui ne pouvait être que le notaire Josset, le chimiste manifesta une certaine surprise. Aussi Chantecoq s'empressa-t-il de déclarer « Oh, monsieur le professeur, ne vous inquiétez pas au sujet de monsieur Wilstreamer. Il a dû s'absenter pendant quelques instants, mais il ne va pas tarder à revenir et il m'a demandé, en attendant son retour, de vous tenir compagnie. » Un peu inquiet, Courtil se demandait « Mais quelle singulière idée Streamer a-t-il eue de me faire venir ici et surtout de me laisser seul en présence de ce personnage que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam ? Il a l'air d'un très brave homme, sait-on jamais ?» L'arrachant à ses idées, le faux tabellion l'invitait avec empressement à s'asseoir dans le fauteuil qu'il occupait quelques instants auparavant. Le professeur Courtil y consentit, visiblement gêné. Son inquiétude se traduisit par ces mots. « Pensez-vous que M. Streamer va bientôt beaucoup tarder ?»« Oh, je ne pense pas. Peut-être pourriez-vous déjà me parler un peu ?»« Je ne demande pas mieux, » déclarait le savant. « Car je vous avouerai franchement que je n'ai pas très bien compris ce qu'il me disait par téléphone. » « Oh, j'étais là, » déclarait Chantecoq, « et j'ai trouvé qu'il vous parlait très clairement. » « Alors, sans doute ai-je mal saisi. »« Mais je peux vous répéter textuellement ce qu'il vous a dit. Il vous a téléphoné ceci. Je viens de trouver une nouvelle cliente. Venez me rejoindre tout de suite à l'hôtel du Quai d'Orsay. Demandez à parler immédiatement à Maître Josset, notaire. » « C'est bien cela, n'est-ce pas ?»« Oui, parfaitement, monsieur. »« Ma nouvelle cliente, c'est ma femme. »«
Votre femme ?»«
Oui, ma femme, » accentuait Chantecoq. « Elle m'a indignement trompé. » À ces mots, un flot de sang pourpra subitement le visage du savant, dont les yeux prirent en même temps, involontairement, instinctivement, une expression d'implacable férocité. Le roi des détectives, qui notait soigneusement tous ces détails, et continuait sur le ton d'un homme qui est réellement affligé par une profonde douleur. « Oh, la misérable que j'adorais, qui était tout mon bonheur, toute ma vie, m'a quitté en m'apportant 100 000 francs pour rejoindre son amant. » Un jeune homme interlope, un métèque qu'elle avait rencontré dans un dancing nantais. Mais savez-vous quelle raison Cette gueuse a trouvé pour justifier sa conduite. Elle a prétendu que, trop absorbée par mon travail, je la négligeais trop, je m'occupais plus d'elle. Jean de Kock ne continua pas. Le professeur venait de l'interrompre par une sorte de rugissement de bête fauve qui se prolongea comme la plainte d'un animal cruellement blessé. Et se redressant, l'œil hagard injecté hors de lui, fou, l'écume aux lèvres, le savant haleta. Où est-elle? Où est-elle? Je veux la tuer! D'une main, le grand limier lui saisit le bras, et de l'autre, enlevant sa perruque et sa barbe, il fit en plongeant son regard dans celui du savant. « Fini de tuer, monsieur le professeur. C'est à votre tour de répondre de vos actes. »«
Ah, Jean de Kock !»
reconnut le savant. Et il s'écroula sur le plancher, comme s'il venait d'être tout à coup frappé d'un coup de massue. Le roi des détectives allait se pencher vers lui, mais il lui sembla percevoir près de lui un bruit de pas étouffé. Il se retourna. Un couteau à la main, Will Streamer, qui avait appris avec le célèbre Andurdini l'art de se débarrasser des entraves les plus serrées, avait réussi à desserrer son bâillon et ses liens, et s'approchait, prêt à frapper traîtreusement dans le dos son loyal adversaire. Mais celui-ci, prompt comme l'éclair, sortait de sa poche le pistolet à forme bizarre dont nous avons parlé plus haut, et l'approchant du visage de Will, au moment où celui-ci fondait sur lui, il appuya simplement sur la détente. Aucune détonation ne retentit, et pourtant l'Américain s'écroula sur le parquet comme si une balle venait de lui traverser le cerveau. Jean de Kock venait d'utiliser une fois de plus avec succès son fameux pistolet somnifère qu'il avait inventé en collaboration avec un des plus illustres chimistes et le meilleur armurier de Paris, et grâce auquel il avait déjà obtenu de merveilleux résultats en endormant les bandits auxquels il s'attaquait ou bien contre lesquels il avait à se défendre. Tout en contemplant ses deux adversaires, qui pas plus l'un que l'autre ne donnaient signe de vie, il grommela « Avec l'Américain, je suis tranquille. Il ne reviendra pas à lui avant le jour. Quant à l'autre, il est qu'évanoui et en deux minutes, je puis le ramener aux réalités qui l'attendent. Après tout, ma besogne est terminée. Si je prévenais les Rénies, bon, faites-je bien le temps. Et je reconnais sans la moindre difficulté qu'il ne me serait pas désagréable d'avoir avec le tueur des femmes un dernier entretien qui me fixerait entièrement sur le degré de sa responsabilité. Obtenir de ce criminel, que je n'ai pas encore rencontré sur ma route, une confession intégrale, absolue, ne serait-ce pas ajouter à mes nombreuses aventures un chapitre aussi inédit qu'émouvant? Eh bien, allons-y. » Il s'inclina vers le professeur. Jean de Kock constata aussitôt qu'il n'aurait pas besoin d'employer aucun révulsif pour lui faire reprendre connaissance. Courtil commençait à s'agiter légèrement. Lentement, ses paupières se soulevaient, laissant apparaître un regard vague, trouble, qui révélait que, moralement, le savant ne s'était nullement ressaisi. Jean de Kock se plaça à l'écart, de façon que le professeur ne remarque pas tout de suite sa présence. Péniblement, le savant se redressa sur son séant. Il semblait littéralement hébété. Sans doute un voile obscurcissait son regard, car lentement, avec des gestes d'automate, il se frotta les yeux. Puis de ses deux mains, il étreignit son front. Plusieurs soupirs gonflèrent successivement sa poitrine, et le dernier se termina en une sorte de râle douloureux. Angoissé, puis exprimant toute la détresse, tout le désarroi et peut-être aussi toute l'inconscience qui était en lui, il insista, il chercha à se relever. Alors il aperçut, étendu à 2 mètres environ de lui, le corps de l'Américain. À sa vue, il demeura figé de surprise et d'épouvante. Puis, comme s'il n'avait pas la force de se redresser sur ses jambes, il rampa vers Will le streamer avec des allures de bête à la fois excitée par la curiosité et retenue par la peur. Shortcock le laissa faire et se glissa derrière les tentures de l'une des deux fenêtres, il se préparait à observer ce qui allait se passer. Non sans avoir hésité, Courtil, dont un rictus inquiétant barrait le visage contracté, était arrivé tout près de l'Américain. Il le dévisagea un instant d'un air égaré, hocha la tête, et tandis qu'un peu d'écume apparaissait aux commissures de ses lèvres, il grommela assez haut pour que Shortcock l'entendît. « On dirait que j'ai déjà vu cet homme quelque part. » Il le saisit par le bras et le secoua. Mais Will Streamer, littéralement abruti de sommeil, ne fit même pas entendre un grognement de protestation. Toujours à haute voix, le savant reprenait l'air de plus en plus effaré. « Mais il est mort, mais pourquoi est-il mort? Qui l'a tué? Ou pourquoi s'est-il tué? Mais c'est pas moi, non, c'est pas moi. Et puis pourquoi suis-je ici? Et qu'est-ce ici? » Il restait à genoux près du corps inanimé de l'Américain, se pencha vers lui en répétant « Mais je l'ai déjà vu, mais où ? Mais comment ? Mais je me rappelle pas. Je sais pas, je comprends pas. Non, je comprends pas. » Le roi des détectives, qui de sa cachette suivait cette scène avec un intérêt passionné, se disait « Cet homme est évidemment sincère. Donc ce n'est pas un demi-dément, ainsi que je le pensais, ni même un maniaque irresponsable, mais un fou intégral, à moins que, tel le héros de cette pièce si poignante, le procureur Hallers, il est en lui un dédoublement de la personnalité qui fasse que, tour à tour, il soit le plus paisible des hommes et le plus effroyable des assassins. Nous allons nous en assurer. » Soulevant la tenture derrière laquelle il se dissimulait, Shortcock s'avança rapidement vers le professeur Courtil, qui le dévisageait avec des yeux d'halluciné. Quand il fut tout près de lui, il entendit répéter la même phrase qu'il venait de proférer un instant auparavant en regardant Will Streamer. « Je l'ai déjà vu, mais où? Mais comment? Mais je ne me rappelle pas, je ne comprends pas. » Sans violence et même avec une certaine douceur, le roi des détectives saisit le professeur par le bras et tout en le fixant profondément, il articula « Mais regardez-moi comme je vous regarde et tâchez de vous souvenir. » Le savant ne chercha pas à se dérober. L'expression de sa physionomie indiquait nettement son état d'âme, c'est-à-dire celle d'une stupéfaction profonde et d'une indécision aussi sincère qu'absolue. Cette attitude ressemblait étrangement à celle d'un dormeur qui vient d'être subitement réveillé et arraché à un cauchemar dont il ne se rappelle plus la donnée mais dont il continue à subir l'influence morbide. Tout cela renforçait singulièrement cette thèse du dédoublement de la personnalité que Shortcock avait adoptée lorsqu'il recherchait les mobiles qui avaient poussé un homme d'une si grande envergure, d'une si rigide honnêteté et d'un si beau caractère, à devenir le tueur de femmes. Maintenant, il n'en doutait plus. Seul un violent traumatisme moral avait pu faire de cet homme en faire deux. Mais deux hommes s'ignorant l'un et l'autre, deux individualités entièrement distinctes et n'ayant aucun point de compréhension entre elles, séparés par une sorte de compartiment étanche qui les faisait mutuellement s'ignorer, si bien que chacune d'elles ne pouvait devenir agissante que lorsqu'elle était entièrement séparée de l'autre. Deux âmes dans un même corps, L'une, celle d'un homme d'un génie admirable, d'une vertu profonde. L'autre, celle d'un sadique, d'un criminel, d'un bourreau implacable. Tel était le phénomène que présentait le professeur Courtil. Il apparaissait au détective que ce n'était plus ni de l'échafaud ni du cabanon que ce malheureux relevait, mais de la science. Quel extraordinaire sujet d'étude il allait fournir, en effet, à ses confrères. Songeant à tout le mal que ceci lui avait fait, le grand limier cessa de penser à la conclusion de son enquête. Il venait de se demander tout à coup s'il ne valait pas mieux livrer ce fou à la justice qu'à l'examen de ses pairs. D'ailleurs, un dernier doute subsistait en lui. Qui sait s'il ne se trouvait pas devant de ces simulateurs extraordinaires qui cherchaient à lui donner le change, à le duper, à obtenir des promesses et à en profiter pour lui échapper, ainsi qu'à la vindicte publique qui ne pouvait être qu'implacable envers lui. Chantecoq n'était pas homme à demeurer longtemps dans une telle incertitude. Jamais il ne laissait rien dans l'ombre. Et l'affaire qu'il était en train de liquider était de celle où il importe de tout éclaircir. Il était bien décidé à y mettre le point final que lorsque l'aurait projeté toute la lumière dans son esprit résolu, en toute la puissance de sa raison, la dernière proposition de problème qui lui restait à élucider. Il tenait toujours le savant par le bras, et celui-ci ne songeait nullement à se dégager de son étreinte, pas plus qu'il ne détachait son regard de celui du limier. On dit au contraire qu'il implorait instinctivement de sa part une protection contre un danger qu'il ne voyait pas, mais qu'il pressentait. Et de ses lèvres tremblantes, ces mots s'échappèrent, murmurés avec l'accent d'une prière beaucoup plus que celui d'une question. « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» Et comme Chantecoq ne lui répondait pas tout de suite, il articula, craintif comme un enfant qui aurait peur d'être grondé pour une faute dont il serait innocent. « Pardonnez-moi de ne pas vous reconnaître, mais en ce moment, ma mémoire est comme un trou dans lequel il n'y aurait plus que des ténèbres. Ne me rappelle plus rien. Ma pensée est incapable de saisir autre chose que ce que j'ai devant moi. C'est effrayant. Oh, je suis comme un mort-vivant qui entrerait tout à coup dans un monde inconnu, ou plutôt comme un aveugle qui reverrait tout à coup la lumière après de longues, très longues années d'obscurité. Aidez-moi, monsieur, à sortir de cette situation si douloureuse. Dites-vous, le voulez bien ?»« Mais certainement, acquiesçait le roi des détectives. » Et tout de suite, il l'interrogea. « Vous rappelez-vous votre nom ?» Le savant chercha un instant, puis il eut un signe de tête négatif. « Bien, je vais vous le dire, » poursuivit le grand limier. « Vous vous appelez le professeur Courtil. » Le savant tressaillit, abaissa ses paupières, comme s'il éprouvait le subit besoin de se renfermer en lui-même. Pendant quelques secondes, il demeura silencieux, immobile. Puis, toujours les yeux clos, il dit « Oui, c'est moi, le professeur Courtil. » Chantecoq reprenait « Mais vous êtes un grand, un très grand savant. Malheureusement, vous avez été victime de la jalousie de vos collègues, qui se sont efforcés de barrer la route à l'homme de génie qu'ils avaient bien été obligés de reconnaître en vous. » Vos théories, aussi audacieuses que théoriques, risquaient fort de renverser le frêle échafaudage d'empirisme sur lequel repose la médecine moderne, plus encore peut-être que la médecine ancienne. Ils n'ont pas voulu, ils vous ont brisé. Ah, comme vous me connaissez bien, soupirait le professeur. Oui, c'est la vérité. Toute cette coterie d'arrivistes m'a étouffé. Sans elle, j'aurais réalisé de bien grandes choses. Mais continuez donc. Ça me rappelait ma vie. Vous me rappelez à l'existence, car vous n'avez pas fini. Non, je n'ai pas fini, déclarait Chantecoq, avec une gravité teintée d'émotion. Car il sentait que le moment de la grande épreuve était arrivé. Et il reprit, en pesant bien chacun de ses mots, et en ressaisissant le regard du savant, qui depuis quelques secondes lui avait échappé, armé comme vous l'étiez, vous n'hésitiez certainement pas renoncer à la hutte, déserter le champ de bataille, si la plus terrible catastrophe que vous puissiez redouter ne s'était pas abattue sur vous. La plus terrible catastrophe ? Répétait Courtil en pâlissant. Chantecoq continuait. Vous étiez marié à une femme que vous adoriez. Mais comment ? S'exclamait le savant dont les dents claquaient. Mais comment ? Vous savez cela aussi ? Et bien d'autres choses encore, affirmait le célèbre limier, qui sentait grandir de minute en minute l'ascendant qu'il exerçait déjà sur son interlocuteur. Et tout en martelant ses mots comme s'il voulait les faire pénétrer plus sûrement, plus directement dans son cerveau, qui commençait à reprendre son état de réceptivité, il poursuivit. Et un jour, vous avez acquis la preuve que vous étiez trompé.
Moi ?
S'exclamait le professeur dont la figure se crispait de toute sa douleur renouvelée. Oui, vous, appuyait le roi le détective. Alors vous avez voulu châtier la coupable vous-même. Elle a été votre première victime. Un cri rauque échappa au savant qui chancela. Chantecoq le retint et le fit asseoir sur un fauteuil. Se penchant vers lui, le limier, qui avait résolu d'aller jusqu'au bout, reprenait. Non pour fuir une injustice que vous saviez très bien ne pas pouvoir vous atteindre, mais pour vous éloigner d'un milieu, d'une ambiance qui évoquait sans cesse votre bonheur passé et ne pouvait qu'accroître votre détresse présente. Alors vous êtes parti vous réfugier dans un bourg breton et vous avez demandé au travail et à la retraite l'apaisement et l'oubli. Et vous ne les avez obtenus que par intermittence. Malgré tous vos efforts sincères et méritoires, vous n'avez pu chasser de votre pensée le souvenir de celle qui vous avait trahi. Il vous hantait sans cesse. Et bientôt, il vous a pu laisser un instant de répit. Et la continuité dans la souffrance a fini par créer en vous un second individu, tout à fait différent de celui que vous aviez été jusqu'alors, c'est-à-dire un être haineux, violent, vindicatif, qui a bientôt perdu tout contrôle de lui-même. Et c'est ainsi que vous êtes arrivé, peu à peu, à incarner à vos propres yeux une sorte de justicier qui se serait donné à lui-même la mission de châtier les femmes adultères. Au service de cette cause, vous avez mis les ressources de votre génie scientifique. Vous n'avez pu diriger votre esprit que sur un seul but. Et vous, qui aviez déjà inventé le moyen de ranimer les léthargiques, vous êtes arrivé à établir la formule chimique grâce à laquelle vous endormiez toutes les épouses coupables que vous rencontriez sur votre route ou que l'on vous signalait à votre terrible attention. Cette formule, longtemps vous avez hésité à vous en servir. Votre double avait à lutter contre votre première personnalité, qui était celle d'un grand honnête homme. Mais il devait être un jour le plus fort. L'idée fixe s'est emparée de vous et vous a transformé en une sorte de monomane et dont rien désormais, pas même la plus élémentaire pitié, ne pouvait vous délivrer. Cependant, votre conscience vous imposait de ne frapper qu'à coup sûr. Vous vous révoltiez à la pensée de condamner un innocent. La preuve, c'est que lorsque je vous ai démontré que mon ami Barois n'était pas coupable. Vous n'avez pas hésité un seul instant à la ranimer, à la réveiller, à la sauver. Et pourtant, à ce moment, vous étiez sous l'influence de votre double. Vous aviez entièrement abdiqué votre première personnalité. Mais ceci n'est qu'une parenthèse, je la ferme, et je reviens entièrement à notre sujet. Je vous disais donc que vous refusiez de frapper à tort et à travers, et que vous teniez absolument à frapper à coup sûr. Et voilà comment est née en vous l'idée de vous adresser à un de ces détectives privés et véreux, tel que ce Will Streamer, que vous voyez là et qui est plus coupable que vous, puisque lui possédait son libre arbitre et son entière responsabilité. C'est donc lui qui vous désignait celle que vous deviez sacrifier. Mais qui sait si, à l'erreur que je vous ai signalée, il ne s'en est pas ajouté d'autres. Ah, monsieur le professeur Courtil, pourquoi n'êtes-vous pas resté vous-même? Êtes-vous plus avancé maintenant que vous avez obéi à cet instinct de vengeance destructive qui vous animait? Maintenant que vous avez jalonné votre route de cadavre, ne sentez-vous pas le remords vous empoigner à la pensée de ces malheureuses que vous avez emmenées vivantes dans leur tombe? Ne vous dites pas que parmi vos victimes, il en était qui avaient droit à de légères circonstances atténuantes, et que beaucoup étaient des égarés, et que le repentir pouvait bientôt toucher. Avez-vous songé que ces femmes avaient des maris qui ignoraient leurs fautes et les eussent peut-être ignorés toujours, des enfants, des inconscients, qui eux seuls auraient dû vous retenir? Non, professeur Courtil, l'idée fixe vous dominait à tel point que vous vous êtes montré implacable. Je ne doute pas un seul instant que chaque fois que cet immonde streamer vous désignait une victime, vous ayez éprouvé une joie sadique, une allégresse infernale. Pourquoi, à ce moment, ne veniez-vous pas entendre vibrer à vos oreilles les vers du poète de Jésus de Nazareth, plein de pitié pour la femme adultère qui s'agenouille et pleure en son chemin? Il dit à ceux qui lui jettent la pierre: sur votre cœur avez-vous mis la main? « Assez, assez !» interrompait le professeur Courtil en éclatant en sanglots. Le roi des détectives le laissa exhaler tout son désespoir. Le compartiment étanche qui avait devant nos si longues années avait séparé le savant de son double, était en train de disparaître, rétablissant ainsi le rapprochement et la fusion en une seule de ces deux âmes étrangement séparées et si hermétiquement formées à tout contact. Avant d'être jugé par les hommes, le savant se jugeait lui-même. Le verdict auquel il venait de se condamner lui-même n'allait pas tarder à sortir de sa bouche. « Monsieur Shotcock, dit-il d'une voix grave et calme, je viens, grâce à vous, de me ressaisir entièrement. Mais n'ajouterai qu'un mot. Un homme tel que moi doit disparaître, et cela sans tarder. Tuez-moi donc comme vous avez tué Will Streamer. » Tout en dirigeant son regard vers l'Américain toujours inerte, Chantecor affirmait: « Oh, moi, je ne tue jamais, j'endors. Ce gredin est en effet plongé dans un profond sommeil d'où ne s'éveillera que dans une prison bien close. » « Alors, s'exclama le professeur Courtil avec terreur, vous voulez m'envoyer en prison ?» Et sans donner au roi des détectives le temps de lui répondre, il s'écria: « Oh, je vous en supplie, épargnez-moi cette honte. Oh, non pas que j'ai peur du châtiment. Est-ce que je ne viens pas de vous dire « tuez-moi » ?»« Non, oh, la mort ne me fait pas trembler. Si vous saviez au contraire combien je la regarde en face, mais frappez-moi donc, que ce soit fini tout de suite. Tuez-moi. Vous ne voulez pas? Eh bien, laissez-moi me faire justice moi-même. Il le faut, non pas seulement pour m'éviter le procès effroyable, où nul en dehors de vous ne voudra comprendre que j'ai agi sous l'empire d'une sorte d'hypnose dont vous m'avez réveillé. Ne permettez pas que notre médecin m'examine. Ils m'éviteront peut-être la guillotine. Ils concluront à une responsabilité limitée. Et ce serait le bagne, ou bien, s'ils prétendent que je suis fou, le cabanon. Mais je ne veux ni de l'un ni de l'autre, pas plus d'ailleurs que de l'impunité. Car c'est effroyable à dire. Si je restais libre, j'aurais peur de recommencer. Le malheureux, se dit Shandcock, il ne guérira jamais. Secoué par de nouveaux sanglots, le professeur reprenait. Mais laissez-moi tout ce qu'il me faut. Ce ne sera pas long. Une seconde à peine. Mais ne me regardez plus ainsi. Tant que vos yeux demeureront fixés sur les miens, je n'aurai pas la force d'esquisser le moindre geste. Vos yeux me pétrifient. Il me semble que tout mon corps n'est plus qu'un bloc de pierre, que mon cerveau seul est vivant, que mes jambes, mes bras, je ne peux plus les remuer. Un poids de 100 kilos m'écrase la poitrine. Je n'ai plus qu'une sensation de froid intense. Et voici que ma langue s'embarrasse. Des nuages partout, la nuit. La tête du savant retomba en arrière sur le dossier du fauteuil. Shandcock se pencha pour écouter si son cœur battait encore. Il battait à intervalles réguliers. Shandcock tâta le pouls du savant. Ce n'était pas celui d'un agonisant. Il lui pinça fortement le bras, sans obtenir aucun réflexe. Les yeux fixes, mais non vitreux, ressemblaient à deux fenêtres grandes ouvertes. Oh, paralysie ! Fit le roi le détective, avec le ton assuré d'un médecin sûr de son diagnostic. Et il ajouta, « Oh, mieux vaut qu'il en soit ainsi !» Il s'enfuit vers le téléphone. Tout d'abord, il demanda la communication avec son propre domicile. Bientôt, il entendit la voix de Météor résonner à l'autre bout du fil. « Allô, c'est vous, patron ?»« Oui, mon petit, tout va bien. Tu peux te coucher et dormir tranquille. Tout est terminé. »« Patron, je... » Météor ne put en dire davantage. Le grand Livy avait déjà raccroché le récepteur. Shandcock attendit une minute ou deux, puis il demanda le numéro de l'RMI. Et quand il l'eut obtenu, il lança dans l'appareil « Cocorico !» Mais ce cri de ralliement n'avait pas l'éclat du triomphe. Il était même empreint d'une certaine tristesse. Le roi des détectives pensait en effet à toutes celles qui avaient payé si cher un moment de folie, une heure d'entraînement. Il pensait aussi à ce génie formidable, à ce grand homme brisé, qui aurait pu accomplir de si grandes choses, et dont l'hostilité de ses confrères et l'infidélité d'une femme légère avaient fait un des monomanes les plus redoutables qui eussent jamais existé. Maintenant, le tueur de femmes n'était plus qu'une loque, qu'une épave. Un corps sans âme, une âme sans corps, rien. Si un peu de vie persistait encore en lui, ce n'était plus qu'en un écho déjà lointain de vibrations passées. Ce n'était même pas une agonie, même pas la dernière lueur qui s'éteint, mais une sorte de survie mécanique, telle que dit-on en éprouve les condamnés à mort lorsqu'on leur a tranché la tête. Quand, 2 heures plus tard, M. Lérémy pénétra dans la chambre d'hôtel où venait de se dérouler cette scène, il trouva Shandcock qui contemplait, avec une expression d'infinie tristesse, ce qui restait d'un homme de génie. Épilogue. Quelques jours après les événements que nous venons de décrire, Shandcock, assis dans son studio devant sa table de travail, disait tout haut à son secrétaire et collaborateur Météore l'article suivant que publiait un grand quotidien du matin. Nous reproduisons cet article dans son entière intégrité. Nous avons déjà raconté à nos lecteurs avec quelle habileté M. Lerendi, le directeur de la police judiciaire, avait réussi, avec le concours des meilleurs de ses inspecteurs, à découvrir et à arrêter le tueur de femmes, c'est-à-dire le professeur Courtil et son complice, le détective privé américain Will Streamer. Nous avions également raconté que cette arrestation s'était produite dans un hôtel de la rive gauche, où le maniaque et effroyable auteur de ces abominables massacres avait donné rendez-vous à son rabatteur habituel. Complétons maintenant nos informations. M. Lérémy et ses inspecteurs se sont trouvés en face d'un homme qui devait être frappé d'une attaque de paralysie et d'un autre qui, étendu sur le sol, paraissait d'ivre mort. Le premier n'était autre que le professeur Courtil, qui, vu son état, a été immédiatement dirigé sur l'infirmerie du dépôt. Quant au second, c'était l'Américain Slimmer, qui immédiatement a été emporté par les agents et enfermé dans une cellule, où il a été soumis d'ailleurs à la plus étroite surveillance. Cet odieux personnage ne s'est réveillé qu'à 9 h du matin. Il a eu tout d'abord beaucoup de mal à répondre ou reprendre ses esprits, mais habilement cuisiné, il a fini par entrer dans la voie des aveux et par reconnaître que c'était bien lui qui indiquait à l'auteur de tueur de femmes les malheureuses que celui-ci, quelques heures après, foudroyait de son mystérieux poison. Nous adressons, monsieur le directeur de la police judiciaire, ainsi qu'à ses agents, toutes nos plus sincères félicitations, et nous espérons que le gouvernement sera récompensé comme il convient un aussi magnifique exploit. Post-scriptum, nous apprenons en dernière minute que le professeur Courtil vient de succomber. Seul donc l'Américain Will Streamer aura à répondre devant la justice de notre pays de cette effroyable série de forfaits, tandis qu'un sourire plein de bonhomie entr'ouvrait les lèvres du roi des détectives, Météore s'écriait « Eh bien, patron, je trouve tout de même qu'ils vont un peu fort, la préfecture. » « Mais pourquoi, mon ami ? Mais sapristi, mais qu'est-ce qui a réussi le coup, c'est vous ? Oh, je crois, moi, que si vous n'avez pas été là, ces messieurs nageraient encore et comment ?»« C'est possible, déclarait modestement le grand limier. Mais j'en suis enchanté. J'ai trouvé l'occasion d'en service non seulement à un de mes anciens élèves, qui est devenu un de mes bons amis, mais aussi à cette institution qui s'est chargé de veiller sur la sécurité de nos concitoyens, c'est-à-dire à la police officielle, dont on a trop tendance chez nous à méconnaître les admirables efforts. Patron, mais on dirait que vous voulez y rentrer. Oh non, mon cher petit, qui ferais-je? Pas mieux certainement que ceux qui la dirigent, et qui chaque jour perfectionnent avec autant d'intelligence, et j'ajouterai de tact, l'instrument si délicat à manier qu'ils ont entre les mains. Mais ce que je puis faire encore, c'est de lui apporter mon concours anonyme, chaque fois qu'il en sentira le besoin, et ce sera peut-être pour nous deux l'occasion de nouvelles et nobles aventures. Vois-tu, mon petit météore, nous vivons à une époque où les honnêtes gens doivent s'unir pour le bon combat contre la crapule. Il ne doit y avoir ni coterie ni chapelle, mais une collaboration permanente, directe ou indirecte, suivant les circonstances, entre tous ceux qui sont aptes, soit par leurs fonctions, leurs connaissances et leurs aptitudes, à améliorer les conditions de l'existence humaine, en un mot, à se conduire humainement et honnêtement en toutes circonstances. « Patron !» s'écria Météore. « Ah, comme toujours, vous avez raison !» Chantecoq, tirant sa pipe, s'est mis à labourer avec le soin qu'il apportait chaque fois qu'il accomplissait ce rite. Et tout en l'allumant, il dit « Eh bien maintenant, je crois que nous allons pouvoir prendre 2 bons mois de vacances !»